Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons évoquer la figure de l'abbé Jules Leroy, une personnalité importante des études orientales, des études bibliques, de l'histoire de l'art chrétien proche-oriental, dont les manuscrits syriaques à miniature ou à peinture, qui ont très tôt attiré son attention à la Bibliothèque nationale. Il est né en 1903 et meurt en 1979. Il entre au CNRS en 1936. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces périodes, ces décennies, l'abbé Jules Leroy a voyagé intensément entre le Liban, le Sinaï en Égypte, l'Éthiopie, la Syrie ou encore la Turquie orientale, dont la région du Tour Abdin qu'il visite à deux reprises en 1967 et 1969. Expédition importante dont il publiera un précieux compte-rendu permettant de mieux connaître cette montagne dédiée aux origines du monachisme syriaque. Pour évoquer ce voyage, je suis en compagnie de François Chevalereau, qui a lui-même accompagné l'abbé Leroy dans cette découverte. Bonjour François.
Bonjour.
1967-1969, alors je voudrais vous demander quels sont vos souvenirs de cette expédition et peut-être par nous décrire un petit peu la figure de l'abbé Leroy.
Alors moi j'ai rencontré l'abbé Leroy, j'étais à l'époque, je terminais mes études d'architecte et je venais d'être diplômé et j'avais un cousin moine qui suivait mes études et qui connaissait l'abbé Leroy. Et quand l'abbé a eu besoin donc d'architecte pour cette mission au Tour Abdin, eh bien il a fait appel à moi. Et donc j'ai été le rencontrer très simplement dans son petit appartement rue de Nevers. Et puis les choses se sont faites comme ça, comme toujours avec lui, dans la bonne humeur. Et donc nous sommes partis pour le Tour Abdin, une première fois en 67 et une seconde en 1969.
Est-ce que vous connaissiez vous-même la Turquie, Istanbul, Constantinople ou d'autres pays du Levant par exemple ?
Oui, je connaissais déjà Istanbul et la Turquie. J'avais 3 ans auparavant fait un voyage avec des amis et nous avions traversé la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Irak... tout le Moyen-Orient, pratiquement, nous étions revenus par le Liban. Donc j'avais déjà une idée de ces pays-là.
Alors nous parlons du Tour Abdin, la montagne des serviteurs de Dieu en syriaque, un thème qui nous est familier à Chrétien d'Orient, je l'aborde régulièrement, mais c'est vraiment la première fois que nous parlons de l'abbé Leroy et que nous parlons surtout de ses missions. Alors j'évoquais des comptes rendus qui ont été publiés dans des revues savantes, mais avec vous François, vous avez participé à cette expédition. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Alors le départ s'est fait d'abord par Istanbul, où nous avions comme véhicule un combi Volkswagen qui nous avait été prêté par une bonne amie de l'abbé Leroy, comme il disait, c'était Madame Kettané, qui d'ailleurs cette famille est toujours concessionnaire Volkswagen à Beyrouth aujourd'hui. Et donc ce véhicule nous a été prêté et donc nous avons réussi à circuler dans le Tour Abdin avec cet engin qui quand même avait quelques difficultés car à l'époque il y avait très peu de routes, c'était plutôt des chemins de terre et donc l'abbé Leroy en particulier redoutait la période des pluies. Donc il nous obligeait à accélérer le mouvement pour pouvoir accéder dans certains lieux qui partant de pluie étaient complètement impossibles, impraticables.
Alors vous êtes parti de Beyrouth, vous êtes parti du Liban pour traverser la Syrie et arriver en Turquie directement ?
Non, le camion est parti du Liban, mais nous sommes partis d'Istanbul. Et donc ce camion a fait le voyage Beyrouth-Istanbul. On a eu d'ailleurs des tas de difficultés pour le dédouaner, mais enfin bon, ça c'est de l'anecdote. Et ensuite, d'Istanbul, avec ce camion, nous sommes allés jusqu'au Tour Abdin.
Le Tour Abdin, est-ce qu'il vous avait préparé à cette découverte ou pas ?
À vrai dire, non. Non, non, la belle Aurore m'avait dit, ben voilà, on va aller remesurer des églises, faire des relevés, faire des photos. Mais il m'avait pas vraiment expliqué ce qu'était le Tour Abdin, donc je l'ai vraiment découvert sur place.
Vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être, une région de monastères, le monachisme syriaque, des paysages étonnants?
Alors effectivement, oui, des paysages magnifiques. Et puis, une certaine douceur de vivre, hein, parce qu'il y a... Il y a des endroits très sauvages, mais il y en a d'autres aussi où il y a quelques cours d'eau. Donc, par exemple, je pense à Deir ez-Zafaran, où il fait bon vivre. Hein. On y est passé plusieurs jours, et c'était vraiment des moments de bonheur. Donc, dans des monastères, et puis, quand il n'y avait pas de monastère, ben, on vivait chez l'habitant, dans des familles chrétiennes, ou dans certains hôtels. Alors, des hôtels, souvent... Comme disait la belle roi, c'est 25e zone, il donnait des numéros comme ça aux hôtels. 25e zone, 12e zone. Donc c'était assez rustique hein, comme style de voyage.
Vous avez été reçu par les autorités religieuses?
Alors on a été reçu surtout par la police. Les autorités religieuses par exemple, oui on avait rencontré l'évêque régulièrement, à Mardin par exemple. Mais c'est surtout avec la police qu'on avait des rencontres, des fois un peu difficiles.
Alors nous sommes dans le sud-est de la Turquie, une zone compliquée par définition,
ouais, hein, ouais.
Limitrophe de la Syrie, de l'Irak, pas très loin de l'Iran si on va au-delà du lac de Van. Donc effectivement, ouais. On peut comprendre que la zone soit un peu compliquée.
Ouais.
Mais parlez-nous un petit peu de ces moines que vous avez rencontrés, des monastères, de cet accueil, de cette hospitalité.
Alors les monastères, évidemment, n'ont rien à voir avec nos monastères chez nous. C'est une sorte de grande famille, en fait. Hein. Et dans ces monastères, à Deir ez-Zafaran, il y avait trois moines. Hein, et puis il y avait plusieurs familles qui vivaient là au milieu du monastère. Donc il y avait une cuisine, il y avait des femmes qui faisaient la cuisine, il y avait donc des moines. Il y avait même une petite école. Il y avait des enfants du village qui, tous les jours, venaient chanter, apprendre en chantant. Donc c'était vraiment une vie de famille, très, très agréable. Le soir, par exemple, quand il commençait à faire un peu plus frais, bon, les moines se mettaient sous la galerie du cloître et puis ils parlaient. Alors on ne comprenait pas tout, bien sûr, loin de là. Mais bon, on parlait, puis il y avait des gens qui étaient donc des voisins, quoi, qui venaient, qui discutaient. Il y avait des poules dans la cour, il y avait des... Voilà, c'était un espèce de campement. Mais enfin, quand même, il y avait des offices régulièrement, et les moines suivaient très régulièrement les horaires des offices.
Une impression de simplicité, et vous-même, vous découvriez un autre univers, finalement.
Ben oui, totalement, oui, parce qu'on s'attendait quand même à quelque chose de beaucoup plus rigoureux, un peu sauvage. Et en fait, non, ils étaient très ouverts, ils étaient heureux d'avoir de la visite, ça c'est sûr.
Donc nous sommes dans le contexte de l'église syriaque orthodoxe.
Oui.
Est-ce que vous avez des anecdotes particulières liées à ces rencontres?
Ben écoutez, j'en ai une qui est assez étonnante, oui, c'est à Maroguin, au monastère de Maroguin.
Sainte-Eugène.
Oui. Donc là, déjà pour y aller, c'est une grimpée en plein soleil très éprouvante. Et arrivé là-haut, on est tombé donc sur le seul vieux moine qu'il y avait, qui vivait avec son chamache.
Il faut expliquer ce que c'est un chamache.
Alors le chamache, ben, c'est son sacristain, si on veut, enfin donc son suppléant. Enfin. Et ce vieux moine, qui avait du mal à se déplacer, était tellement honoré d'avoir de la visite. Alors, je ne sais pas si lui-même avait entendu parler de la belle roi, mais enfin, il savait qu'un abbé, c'était pour lui quelque chose de... Et donc, il nous a demandé s'il pouvait nous tuer un mouton pour nous. Alors quand même, quand on a vu l'état de pauvreté, on lui a dit, c'est pas possible, vous n'avez pas tué un mouton, c'est... Eh bien, alors, à ce moment-là, on va tuer un poulet. Alors, le poulet en question, c'était un espèce de corbeau. On a couru pendant une demi-heure pour attraper le pauvre poulet qu'on a coupé en petits bouts, parce qu'on a chacun eu une petite bouchée de poulet, mais enfin, c'était extraordinaire.
Est-ce que vous y êtes retourné depuis?
Et malheureusement, non, mais je rêve d'y retourner. Oui.
Vous savez que les monastères sont toujours en place, et je pense à Sainte-Eugène, donc Maroguin, un moine a
oui.
pris la succession du père que vous évoquiez, qui est mort en 74, je crois.
Oui, possible. Oui.
Et s'est occupé par un jeune moine maintenant,
oui.
qui a une trentaine d'années.
Ah ben oui, je serais content de le rencontrer. Et alors justement, ce moine avait expliqué à l'abbé Leroy que... Il allait mourir, mais qu'il n'était pas du tout sûr de ce qui l'attendait après sa mort, parce qu'il avait tué quelqu'un. Et il nous a expliqué que le monastère avait été attaqué par des bandits, et que il avait tiré à travers la porte, et puis que, ben, il avait tué le brigand en question. Alors, il était très inquiet, et je me souviens que l'abbé Leroy l'avait, appelons ça comme ça, l'avait un peu confessé, et puis lui avait donné une absolution. Et il était absolument épanoui de ça, quoi.
C'est étonnant, cet abbé Leroy, donc à la fois religieux, bien entendu, chercheur, on l'a dit, qui a intégré le CNRS, passionné, et un chercheur qui se rend sur place, qui veut lui-même... Voilà, on sait qu'il est allé en Éthiopie, il y a eu un livre magnifique, et donc ses rapports sur le Tourabine, il aurait peut-être même voulu écrire un peu plus, avec des photographies peut-être, pour évoquer ce voyage en Turquie orientale.
Alors, ben ça, si vous voulez, ça m'amène à parler un peu du travail qu'on faisait sur place. Lui, l'abbé Leroy, donc, s'occupait toute la partie photographique. Il avait fait une quantité impressionnante de photos qui, d'ailleurs, dans son carnet de voyage, sont répertoriées en expliquant ce que c'est, numérotées. Malheureusement, on n'a jamais pu mettre la main sur ces photos. Par contre, on a retrouvé son carnet de voyage. Donc ça l'occupait. Et puis nous, ben, avec un confrère qui s'appelait Denis Pilven, parce que j'étais pas le seul architecte. Il y avait également Denis Pilven. Donc à nous deux, on se levait le matin de bonne heure pour ne pas avoir trop chaud. Et puis on mesurait avec un décamètre. On avait du matériel tout à fait simple. Et puis un papier, un crayon. Et on dessinait, on faisait des relevés, etc.
Nous sommes ce matin en compagnie de François Chevalereau pour évoquer la figure de l'abbé Jules Leroy et surtout ses deux missions au Tourabine en 1967 et 1969. Vous commenciez à évoquer, d'ailleurs il y a un petit ouvrage qui est en préparation, plan et décor des églises du Tourabine. J'espère vraiment que ça verra le jour assez vite. Vous évoquez ce travail scientifique, ce travail de terrain. Donc vous êtes architecte, vous n'avez pas vraiment d'expérience. Expérience en archéologie à l'époque?
Non, pas vraiment d'expérience.
Mais c'est pas d'archéologie dont on parle d'ailleurs.
Non, c'est pas de l'archéologie.
C'est des relevés.
C'est des relevés, donc ça j'avais l'expérience des relevés. Oui.
Voilà. Oui, vous avez considéré que c'était une chance pour vous de participer à cette mission?
Oui, absolument. C'était une expérience parce que justement, ça m'amenait, moi, jeune diplômé, si vous voulez, évidemment, j'avais dans la tête des architectures contemporaines. Et donc, de toute façon, je me suis toujours intéressé aux choses... ancienne, donc à l'histoire, et pour moi, ça ne me posait pas de problème de transférer mes connaissances d'architecte sur des bâtiments anciens.
Combien d'églises ont été relevées à l'époque par vos soins?
Alors, il y en a, on va dire une quinzaine, quoi.
Dans des villages, dans des contextes différents?
Alors, la plupart dans des monastères, des grands monastères comme Der Zafaran, comme Mar Gabriel, Et puis dans beaucoup de villages, alors vraiment des petits villages, avec des noms d'ailleurs, je ne sais pas si ça évoquera grand-chose, mais Saré par exemple, à Darbekir par exemple, on a relevé l'église Maria Manna. On a également relevé des églises comme Kelet, Bassabrina. Alors des églises rurales, très rurales, souvent bâties d'une façon assez grossière, quoi, avec des moellons. Alors on a réussi quand même... à trouver en gros quatre grands types d'églises, malgré la petite quantité qu'on a visitée. Et en fait, elles se répartissent à peu près de la manière suivante. On a trouvé des églises à plan centré, à base carrée, donc une architecture souvent très bien construite, en pierre de taille, avec sur plan carré, donc souvent une coupole centrale, et puis des absidioles, une abside, orienté à l'est, et puis des absidioles à droite et à gauche. Ça, c'est le cas, par exemple, de l'église principale Mariacoub à Der Zafaran.
Un autre exemple, peut-être?
Un autre exemple de plan centré, on a toujours à Der Zafaran le Beit Kaddishé, qui est donc un lieu de sépulture.
Voilà, qui est le tombeau des patriarches, des évêques du lieu. Hein. Et peut-être un exemple dans une autre catégorie?
Alors, dans une autre catégorie, on a... par exemple, des églises à nef transversale, c'est-à-dire qu'on rentre et la nef est perpendiculaire à l'entrée. Alors, ces églises à nef transversale, on a par exemple Mar Gabriel à Cartamine. Donc, on a cette grande nef transversale et on a en face cette nef transversale, en général, trois chapelles, dont une centrale et une à droite et une à gauche.
Et toutes orientées vers l'Orient.
Quel
était le point de vue de l'abbé Jules Leroy par rapport à cette architecture? Est-ce qu'il a émis des hypothèses? Est-ce qu'il a eu une vision particulière?
Je sais qu'il était en préparation d'un ouvrage Et cet ouvrage, bon, il n'est pas paru, donc c'est un peu pour ça que nous, on a repris cette mission. Mais enfin, je pense que lui, il faisait certainement des parallèles avec certaines églises de Syrie du Nord. Je pense en particulier à Nisib, à Mar-Yacoub de Nisib, qu'il avait identifié comme étant un baptistère. Alors que sur place, c'était pas évident du tout à l'époque. Depuis, je sais qu'il y a eu des parties qui ont été fouillées latéralement. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi c'était un baptistère. Mais enfin, au moment, ça n'était pas lisible.
Nous avions fait une émission sur cette église de Saint-Jacques à Nisib avec Justine Gabory, il y a quelques mois.
Donc oui, mais pas mal d'années avant, il avait déjà, lui, flairé qu'il s'agissait bien d'un baptistère.
Il y avait beaucoup d'interprétations, finalement, parce que dans ces fêtes fin des années 60 en Turquie, il n'y avait pas de fouilles, bien évidemment. Vous étiez suspicieux, vous évoquiez la police. Oui. D'une certaine manière, vous évoquez aussi la méconnaissance des moines sur leur patrimoine.
Oui, absolument. Oui.
Est-ce que l'abbé Leroy avait des conversations avec les religieux sur ces questions-là?
Je pense que ça devait être difficile pour lui, parce que au début du voyage, on avait un interprète qui s'appelait Monsieur Nedim Bey, et malheureusement, il est tombé malade, il nous a abandonné à partir de Mardin. Donc les discussions sur place étaient difficiles. Donc je pense pas qu'il ait pu échanger vraiment, en tout cas sur un sujet aussi technique que l'architecture des bâtiments. Par contre, je me souviens d'une chose, c'est que je crois que c'était aussi à Der Safaran. On nous a montré un soir une cinquantaine de plans qui avaient été relevés par un moine des Indes. Il y a une cinquantaine d'années de ça, donc, et ces plans ont été photographiés par l'abbé Leroy. Et il y avait beaucoup de vieilles églises qui, à mon avis, maintenant, ont disparu. Même à l'époque, devaient avoir disparu. Et malheureusement, comme ces photos de l'abbé Leroy, on les a plus, ça aurait pu être une mine intéressante.
Combien de temps êtes-vous resté à chaque fois?
À chaque fois, on est resté en gros un mois et demi, en septembre jusqu'à mi-octobre. Parce que après le mi-octobre, on risquait d'avoir des périodes de pluie, ce qui d'ailleurs nous est arrivé en 69. Et donc, on a dû se replier à cause du mauvais temps.
Et vous passiez d'un établissement monastique à un autre, ou vous faisiez de longs séjours dans un même monastère?
On passait d'un établissement à un autre. Le plus long séjour qu'on ait fait, je crois, c'est à Der Safaran, où on est resté 6 jours. On est resté à Mar-Gabriel également 3 jours, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mesurer, à relever. Mais après, on faisait une ou deux églises dans la journée, et puis on couchait le soir un peu où on pouvait, quoi. Donc c'était très très rustique. Si je peux me permettre une anecdote, comme on avait donc un véhicule, et que c'était sûrement un des seuls du Tour Abdin à l'époque, on a proposé à l'évêque de Mardin de profiter du véhicule, et c'est même lui qui nous l'avait un petit peu soufflé, pour visiter justement quelques villages. Et donc, alors là, cette fois, sans rien demander à la police, on sait ce qu'on a fait. Donc on est parti, la belle roi, Denis Pilven, moi-même, et l'évêque de Mardin dans notre camion. Et on est donc passé dans des villages complètement perdus. Et je me souviens que le bouche à oreille avait fonctionné. Et quand on arrivait dans ces villages, c'était une véritable émeute, quoi. Tous les villageois étaient là, et je me souviens, ils se jetaient devant les roues du camion pour enlever les pierres. C'était extraordinaire. Et vous savez, sur ces engins Volkswagen, là, il y a une grande porte coulissante sur le côté. Et donc, la porte était ouverte, et nous, on avançait au pas, parce qu'il y avait la foule, quoi. Et donc, il y avait des femmes qui, voyant l'évêque, prenaient leur enfant et le propulsaient à l'intérieur du camion, pour que l'évêque les baptise. Donc l'évêque a commencé à baptiser, et puis mais il y avait 25-30 femmes qui nous couraient après, quoi. Après, l'abbé Leroy s'y est mis, donc il a fait des baptêmes, et puis...
Ah, l'abbé Leroy a lui-même baptisé au Tour Abdin.
Ah oui, il a baptisé. Et puis alors, Denis Pilven et moi-même, qui on avait la barbe, parce que comme les moyens d'hygiène étaient tout à fait rudimentaires, on s'était laissé pousser la barbe. Mais pour ces gens-là, on était des abounas.
Donc des prêtres.
Des prêtres, si bien que... L'abbé Leroy, au bout d'un moment, nous a dit, écoutez, les gars, faut baptiser. Alors, vous baptisez, vous faites comme moi. Et donc, on a baptisé pendant une demi-heure. Enfin, c'était absolument extraordinaire.
Et vous êtes resté dans ces villages après, ou vous rentriez le soir même au monastère?
Alors, dans certains, on est resté, oui, parce que il y avait des familles qui avaient une cour, enfin, au milieu des poules et des chèvres, mais enfin, ils nous mettaient un matelas par terre, puis on dormait là, quoi. Donc, l'abbé Leroy, qui était quand même âgé, supportait ça sans... sans souffler. Enfin,
alors des villages qui ont été malheureusement beaucoup abandonnés après dans les années 80-90. Et beaucoup de ces chrétiens syriaques sont venus en Europe pour... Un dernier petit mot avant que nous nous séparions. Ces photographies, ces documentations donc de l'abbé Leroy, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je sais que quand l'abbé Leroy, vieillissant, donc... Et des amis à lui lui avaient proposé de venir habiter près de chez eux, à Paris. Et ils lui avaient même préparé un petit studio dans lequel ils avaient rassemblé des livres, des documents à l'abbé Leroy. Et puis, en fait, ce studio n'a jamais servi parce que l'abbé Leroy est mort entre-temps du côté de Chaptelat, près d'Angoulême, encore chez des amis. Donc, à son décès, il y a eu une période où ce studio a été inoccupé, puis après il a dû être occupé, donc les documents qui étaient là-dedans, certains ont été mis de côté et sauvés, et on en a retrouvé une partie à l'école pratique des hautes études, en particulier des carnets de voyage du Tour Abdin. Mais les documents photographiques, on n'a jamais réussi à mettre la main dessus. Et pourtant on a cherché avec Hervé, on a cherché beaucoup.
Hervé, et pour le moment, qui travaille sur cette figure qui va peut-être écrire une biographie de son grand-oncle.
Oui. Donc on ne désespère pas peut-être d'arriver un jour à les retrouver, mais enfin pour l'instant, elle nous manque beaucoup. Oui.
Vous êtes optimiste, on les retrouvera un jour?
Écoutez, on a mis 3 ans à retrouver certains carnets de voyage, donc peut-être que dans 1 an ou 2, on arrivera encore à en trouver d'autres.
François Chevalereau, merci beaucoup pour être venu avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie d'avoir permis de faire revivre cette mémoire de l'abbé Leroy.
Voilà, j'avais dit une petite erreur dans sa présentation. Il est entré au CNRS en 56 et non pas en 1936. Je remercie infiniment Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission. Émission que nous retrouvons en balado-diffusion ou en podcast. Et maintenant, place au service protestant. Bon dimanche.